Je vais vous parler donc ce soir de la crise de la démocratie. Et ce que je voudrais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que, en fait, la crise que nous traversons est bien une crise de civilisation. Crise de civilisation parce que notre pays a vécu pendant des siècles dans une civilisation chrétienne, qu'il en est resté profondément marqué, et y compris après la Révolution et toute l'entreprise de déchristianisation de celle-ci, la France est restée profondément marquée par son histoire chrétienne, et qu'aujourd'hui, une autre civilisation, si tant est qu'on puisse lui donner ce qualificatif, s'est substituée à la civilisation traditionnelle et chrétienne, c'est, je crois, la civilisation démocratique. Et je crois précisément que c'est cette civilisation démocratique qui explique assez largement, pour ne pas dire essentiellement, la crise que nous traversons actuellement. Je sais que cette thèse peut sembler paradoxale, à une époque où, semble-t-il, le triomphe de la démocratie est complet, absolu. La démocratie, vous le rappeliez, monsieur le recteur, à juste titre, l'autre jour, est devenue une véritable religion, et je reviendrai sur ce point capital. C'est assurément, dans l'esprit de nos contemporains, le critère du bien et du mal. Si c'est démocratique, c'est bien. Si c'est pas démocratique, c'est nécessairement mal. On le voit d'ailleurs dans les débats entre des hommes politiques. Lorsqu'un homme politique est en difficulté, tout de suite, il accuse son opposant de ne pas être un vrai démocrate. Et là, l'excommunication majeure est prononcée. Apparemment, donc, victoire totale. Et pourtant, on pourrait dire aussi échec total. Parce que si la démocratie a triomphé dans les esprits, dans la pratique, dans la gestion du bien commun, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas réussi, mais qu'elle a lamentablement échoué. On a l'habitude de voir trois aspects dans la crise. Et d'ailleurs, la plupart des hommes politiques, même s'ils s'en sont restés au stade des recettes, évoquent souvent cette formule, ils disent qu'il y a une crise qui est à la fois économique, politique et morale. Le dernier qualificatif, d'ailleurs le qualificatif de morale, est assez récent, somme toute, parce que le terme moral a eu pendant très longtemps une connotation négative et les hommes politiques faisaient très attention à ne pas l'utiliser. Mais si l'on s'en tient à la manifestation la plus criante, la plus grave, et très révélatrice, beaucoup plus révélatrice qu'on ne le dit, il y a effectivement la question du chômage. Sur le chômage, on discute sur le point de savoir le niveau. Les évaluations vont de 3 à 6 millions, selon qu'on prend le chômage au sens strict, la définition légale, ou que l'on y rajoute, tous les gens qui n'étant pas au chômage sont à la vérité au chômage, parce qu'ils sont dans des situations où l'on a dissimulé leur état de chômeur, parce qu'on les a inscrits dans des stages bidons ou parking, parce qu'on leur a fait des pseudo-contrats de travail, tout ça pour diminuer arbitrairement et de manière fictive les chiffres du chômage. Quel que soit le chiffre que l'on prend, ça fait tout de même par rapport à la population active, c'est-à-dire des gens susceptibles de travailler, entre 12 et 25%, c'est-à-dire peut-être le quart de la population qui est au chômage. Donc si l'on rajoute les conjoints des gens qui sont au chômage, leurs enfants, c'est pratiquement toute la population qui est directement ou indirectement concernée par le phénomène. On ne le dit pas assez cela, mais c'est vrai que c'est important. Il faut savoir que globalement, le chômage dans notre pays, pour autant qu'on puisse mesurer son impact financier, c'est pratiquement le prix de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que si on n'avait pas indemnisé les chômeurs, vous ici qui payez l'impôt sur le revenu, vous vous en feriez l'économie. Peut-être ce qui intéresse le plus les hommes politiques dans le chômage, c'est le risque qu'ils représentent. À savoir qu'ils sont conscients du fait que s'ils résolvent la question, ils seront réélus. S'ils échouent, ils seront battus. Eh bien, tout ceci est important, mais à mon avis, tout ceci est infiniment moins grave qu'un autre aspect. C'est que le chômage présente pour une société, pour la nôtre en particulier, précisément par son caractère durable, il présente un caractère véritablement désastreux. D'abord économiquement, parce qu'on le dit pratiquement jamais, mais c'est un manque à gagner considérable. Je disais tout à l'heure, 12 à 25% de la population active, ça veut dire 12 à 25% de richesse perdue. Ceci est encore très superficiel par rapport à la vraie dimension du chômage, qui est une dimension morale. À savoir que les gens prennent l'habitude de ne plus travailler. Et la sagesse populaire le disait, l'oisiveté est la mère de tous les vices. En tout cas, il est clair que les gens qui perdent l'habitude de travailler sont des gens qui progressivement, d'une certaine façon, sont perdus pour la société. On en a un exemple très net dans l'URSS, où s'effondre l'URSS. Eh bien, on a des gens qui, pendant 70 ans, ont perdu l'habitude de travailler, du moins de travailler normalement. Mais ce qui est grave, c'est donc l'accumulation de ce chômage dans la durée, dans le temps. Les gens prennent l'habitude de ne plus travailler. Il y a même des enfants qui ont vu leur père, et même parfois leur grand-père, ne jamais travailler. Et ceci produit une mutation quasi génétique, finalement, chez nos contemporains. Et ceci est particulièrement grave, avec évidemment toutes les conséquences secondaires qui y sont attachées, la délinquance notamment. Car très souvent, c'est vrai que les délinquants sont des gens qui sont privés d'emploi. D'abord, s'ils travaillaient, ils auraient peut-être moins de temps à consacrer à la délinquance. Et même si l'on va plus loin, puisque nous sommes entre nous, c'est non seulement un désastre moral, c'est même un désastre spirituel, parce qu'il est dans la nature de l'homme de travailler. Rassurez-vous, je ne rejoins pas les idéologies totalitaires, qu'elles soient marxistes ou national-socialistes. On sait que pour les marxistes, toute la richesse provient du travail, et qu'à l'entrée des camps de concentration allemands, il y avait écrit que le travail rend libre. Mais dans la philosophie chrétienne, et même judéo-chrétienne, le travail tient une place éminente. On a souvent l'idée que le travail est une malédiction, parce que la Bible raconte qu'après la chute originelle, Dieu dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais on oublie souvent qu'avant la chute originelle, au moment où Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden, il le met, nous dit la Bible, pour qu'il le travaille. Donc le travail n'est pas né du péché. Ce qui est né du péché, enfin, je parle sous le contrôle des théologiens, c'est la pénibilité du travail. C'est que le travail va devenir désagréable. D'ailleurs, on en a une connaissance intuitive, dans la mesure où souvent le travail est pénible, mais il y a des moments où, en quelque sorte, porté par la grâce, le travail est au contraire une grande joie, ce qui montre bien que ça n'est pas le travail en lui-même qui est une malédiction. Et même dans la perspective chrétienne, si d'une certaine façon le travail est devenu une malédiction, on sait bien que toute la logique du christianisme, c'est à partir de la souffrance de créer la rédemption. Donc le travail, c'est un moyen de sanctification. Bref, tout ceci est un manque à gagner gigantesque pour la société. Et vous comprendrez pourquoi je dis que le chômage, veux-je dire, est un véritable désastre. Si l'on recherche alors les causes de cela, évidemment, ça peut sembler présomptueux de ma part de m'attaquer à la recherche de causes d'un phénomène sur lequel les experts discutent. Je serai moins prétentieux toutefois lorsque j'aurai remarqué que les experts sont en général ceux qui se trompent le plus souvent. Ils ne prédisent jamais une crise, ils ne donnent que très rarement les remèdes pour en sortir. Donc la route est libre et n'importe qui peut s'y aventurer. Surtout s'il reste dans des considérations assez générales. S'il reste à un niveau assez général, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je crois que là, on a une première manifestation de ce que j'appellerais la nocivité de la démocratie, car il me semble que cette crise économique que nous connaissons aujourd'hui et qui se manifeste principalement, ou que l'on voit principalement se manifester à travers le chômage, est elle-même provoquée par la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, me semble-t-il, est intrinsèquement liée à un courant de pensée qu'on appelle l'économisme, sur lequel je vais revenir, courant de pensée qu'on peut définir très simplement en disant que c'est le courant de pensée pour lequel l'économie est la valeur la plus importante. De même que pour le libéralisme, ce qui est le plus important, c'est la liberté. Pour l'économisme, l'essentiel, c'est l'économie. C'est donc le régime dans la société, l'économie devrait avoir la primauté. Et ceci, c'est bien ce que l'on constate aujourd'hui, je crois que tout le monde en sera d'accord, eh bien je crois que ceci puise son origine dans la démocratie. D'abord, historiquement, on le vérifie à travers le fait que la démocratie apparaît au moment où la bourgeoisie prend le pouvoir, notamment dans notre pays. La bourgeoisie prend le pouvoir à la fin du XVIIIe siècle, et une des raisons pour lesquelles elle prend le pouvoir politique, je précise, puisque le pouvoir économique, elle l'avait déjà largement, une des raisons pour lesquelles elle aspire à prendre le pouvoir politique, c'est précisément qu'elle veut imposer son système économique qui est le capitalisme. Que l'ancien régime, finalement, est un régime qui est anticapitaliste, non pas parce qu'il interdit toute liberté économique, mais parce qu'il ne permet pas au capital de régner en maître dans la société, et ceci gêne profondément la classe bourgeoise. Et d'ailleurs, on le vérifie dans l'histoire, parce qu'au siècle suivant, au XIXe siècle, on voit effectivement la bourgeoisie dominer totalement la vie politique. À travers tous les régimes qui se succèdent, la bourgeoisie demeure en place. Et le régime qui se met en place est bien le régime capitaliste. Le régime capitaliste, d'ailleurs, à l'état le plus brut qui soit, le capitalisme sauvage, avec toutes les conséquences que ça aura. Alors vous m'objecterez que c'est peut-être simplement une coïncidence. Je crois que c'est plus qu'une coïncidence. Je crois que le régime démocratique, et d'ailleurs en lisant les Grecs, je crois qu'on le vérifierait assez facilement, le régime démocratique est un régime qui conduit naturellement à l'économisme. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où l'on donne le pouvoir au peuple, car c'est cela ce que veut dire démocratie, celui qui décide est un être collectif, donc par hypothèse assez irresponsable, naturellement, on ne peut pas lui en faire grief, il va surtout ressentir des besoins immédiats. Les peuples ne sont pas tellement sensibles aux besoins éloignés. Et je dirais que, en tant que responsable politique, j'ai pu constater, y compris dans la formation à laquelle j'appartiens, et donc si j'y appartiens, c'est que je la considère comme la meilleure, que y compris nos amis qui pourtant sont sensibles aux graves problèmes, sont assez peu sensibles, souvent, trop souvent à mon goût, à des questions aussi importantes que la démographie. La démographie est un mal insidieux, extraordinairement grave, puisque les enfants que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est des enfants, des adultes que nous n'aurons pas dans 20 ans. Et malheureusement, c'est un phénomène qui, comme certaines maladies, dont on ne prend conscience que trop tard. En revanche, il est conscient du fait qu'il ne gagne pas assez, qu'il a un emploi qui n'est pas sûr, il aspire à retrouver un emploi s'il est chômeur. Et on le voit bien dans nos campagnes électorales, les questions qui sont débattues sont les questions économiques. Et ça, je crois que c'est lié à la question de la démocratie, parce que un roi a des préoccupations qui sont différentes. Un roi, il est beaucoup moins préoccupé par ces questions-là. Il s'y intéresse parce qu'il aime son peuple, en règle générale, mais il a en vue toujours l'avenir de son peuple. Il pense à travailler pour l'avenir. C'est le pré carré des Capétiens, c'est les constructions qu'on laisse, des constructions de qualité, Versailles, Notre-Dame de Paris, et non pas Beaubourg et la pyramide du Louvre. Vous m'objecterez encore que je parle d'économisme, mais qu'il y a tout de même des théories qui s'affrontent. Je vous répondrai que ces théories qui s'affrontent, qui s'appellent le libéralisme et le socialisme, en fait, ont les mêmes effets. Pire encore, je dirais que leurs effets s'aggravent mutuellement. À savoir que le libéralisme appelle le socialisme et que le socialisme aggrave d'une certaine façon les désordres provoqués par le libéralisme. Ce qui me paraît frappant dans la situation qu'on connaît actuellement, c'est qu'elle ressemble énormément à la situation du XIXe siècle. Ça peut sembler paradoxal de dire cela, c'est vrai qu'il n'y a plus d'enfants qui travaillent au fond des mines, du moins en France, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas la même misère qu'au XIXe siècle, et pourtant, d'un point de vue strictement économique, la crise que nous traversons, je crois, peut s'analyser assez largement comme une crise de surproduction, ce qui caractérisait les désordres économiques du XIXe siècle. Chacun peut le constater, il y a quelques années, ou quelques décennies au moins, les entreprises n'arrivaient pas à faire face à la demande. Or, aujourd'hui, les entreprises débauchent, les entreprises ferment parce qu'elles n'ont plus de clients. C'est donc qu'il y a une surproduction. Cette surproduction conduit les entreprises à avoir entre elles une concurrence véritablement sauvage. Tous les moyens sont bons. Les moyens, y compris les plus déloyaux, y compris les moyens les plus dangereux socialement. Et c'est ainsi qu'on voit baisser, ce qui est une nouveauté dans notre pays depuis une dizaine d'années, on voit baisser les salaires réels. À un point tel que non seulement les bas salaires sont touchés, parce qu'aujourd'hui il y a une concurrence effrénée entre les entreprises, entre les différents pays, non seulement les pays occidentaux, mais aussi les pays d'Extrême-Orient notamment, et donc nos salaires ont tendance à s'aligner sur les salaires de ces pays-là. Je prends un exemple en passant. On a beaucoup parlé de la vente du groupe Thomson à l'entreprise coréenne Daewoo. Il y avait un reportage l'autre jour à la télévision sur Daewoo. Il s'agit de la Corée du Sud, donc un des pays du sud-est asiatique les plus développés, qui a le niveau de vie le plus comparable au nôtre. Je ne parle pas des autres. Eh bien, on disait que chez Daewoo, les gens travaillent 6 jours par semaine, 10 à 12 heures par jour. Donc 60 à 72 heures par semaine, si je compte bien, c'est-à-dire presque le double, au moins 50% de plus que chez nous. Et vous savez qu'ils ne travaillent pas plus mal. Donc comment voulez-vous avoir une concurrence dans des conditions pareilles ? C'est ce qui se passait au XIXe siècle. À savoir qu'on faisait pression sur les salariés en les faisant travailler de plus en plus, en les payant le moins possible pour être concurrentiel avec les autres entreprises. Pourquoi cette incursion dans le XIXe siècle ? Eh bien, pour montrer que, et peut-être que sur ce point, Monsieur le recteur aura des remarques à me faire, mais je les accepterai volontiers, pour montrer l'actualité des critiques du pape Léon XIII, qui écrit à la fin du XIXe siècle. Que dit en substance le pape Léon XIII ? Il dit que le régime du capitalisme sauvage, parce qu'il faut bien distinguer le capitalisme, qui est un régime qui a des avantages, et puis le libéralisme, qui conduit au capitalisme débridé. Et bien, ce que disait le pape Léon XIII, c'est que le capitalisme sauvage était un mauvais régime, qu'il créait des déséquilibres scandaleux, qu'il plongeait, pour reprendre son expression, les ouvriers dans une misère imméritée, mais il ajoutait aussitôt que le socialisme serait un remède pire que le mal. Eh bien, c'est très exactement ce que nous avons vécu ces dernières années. Parce qu'après avoir expérimenté le libéralisme, la France a expérimenté le socialisme, lequel est apparu avec le président Giscard d'Estaing. Ceci va peut-être vous surprendre un peu, et pourtant, c'est le président Giscard d'Estaing lui-même qui le disait, puisqu'au début de son septennat, il a décrété, je ne sais pas où est-ce qu'il avait pris cet indicateur, peut-être que quelqu'un pourra nous préciser, que la différence entre un régime libéral et un régime socialiste, c'est que dans un régime socialiste, le poids des prélèvements obligatoires dépassait 40%. Et effectivement, lorsque M. Giscard d'Estaing est arrivé aux affaires, le poids des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire tout ce que nous sommes obligés de payer, les impôts, les charges sociales, ceci représentait 35%. À la fin de son septennat, nous étions entre 41 et 42%, donc c'est bien sous son septennat, s'il faut s'en tenir à son critère, mais ceci peut se discuter, que nous étions passés dans un régime socialiste. Quel est l'inconvénient de cela ? L'inconvénient de cela, c'est que lorsque la richesse produite par les particuliers, parce qu'il n'y a que les particuliers qui produisent des richesses, lorsque les richesses produites par les particuliers sont accaparées à peu près pour moitié par l'État, puisqu'aujourd'hui nous avons un taux de prélèvement obligatoire qui est entre 45 et 46% l'an, bon an mal an. Eh bien, lorsque ces richesses sont accaparées par l'État, les particuliers sont découragés. Et le meilleur exemple en la matière, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le fameux impôt sur le revenu. On va être amené d'ailleurs dans peu de temps à faire, vous et moi, notre déclaration. Et c'est vrai que quand on fait le total au bas de la feuille et qu'on se rend compte qu'une bonne partie est captée par l'État, partie qui est d'autant plus importante que l'on gagne beaucoup, c'est-à-dire a priori qu'on est plus productif. Je sais qu'il peut y avoir des gens qui gagnent beaucoup parce qu'ils sont très malhonnêtes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont très efficaces économiquement parlant. Eh bien, on décourage les gens. Et on voit donc que le socialisme vient amener une cause supplémentaire de désordre économique, supplémentaire à celle que l'on disait tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, le socialisme vise à corriger les excès du libéralisme. Et en cela, c'est vrai qu'il y a une aspiration qui est louable. Et en particulier du fait qu'il constate qu'il y a des laissés pour compte, qu'il y a des malheureux sur le bord de la route, eh bien la solution consiste toujours à ponctionner de nouvelles recettes, d'où l'augmentation des impôts à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, ponctionner de nouvelles recettes pour les redistribuer. Mais ceci est générateur, comme le disait déjà le pape Léon XIII, de plus de problèmes que de solutions. Parce que, je crois d'ailleurs vous dire ici des choses assez banales, mais dans la mesure où l'on crée un carcan, on décourage les acteurs économiques, et même, je le constate dans mon activité d'élu local, on met en place toujours des systèmes d'aide qui orientent les producteurs plus vers la recherche de ces aides que vers la production. Puisqu'aujourd'hui, pour aider les entreprises, il y a des multiples aides aux entreprises, et bien vous avez dans les entreprises souvent une personne dont le seul travail consiste à rechercher les aides aux entreprises. Et évidemment, cette personne qui recherche les aides aux entreprises est une personne qui, par hypothèse, ne produit pas des richesses. On voit donc que ces deux régimes, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens affirment, ne se corrigent pas mutuellement, mais ont des effets qui s'aggravent mutuellement. Et cette social-démocratie dans laquelle nous vivons, je crois qu'elle est directement responsable de la crise économique, et elle est directement issue de la mentalité démocratique, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que, en fin de compte, il y a un désordre établi, pour reprendre une expression de quelqu'un qui n'était pas vraiment de nos amis, Emmanuel Mounier, il y a un désordre dans cette société, mais un désordre qui est institutionnalisé de longue date. Et je dirais encore un dernier mot sur ce point. C'est que ce système économique qui est en place est révélateur d'une négation très profonde de l'ordre naturel. je parle ici sous le contrôle de certains amis historiens qui sont dans cette salle, mais pratiquement dans toutes les sociétés traditionnelles, on observe qu'il y a trois catégories de gens. Pour dire les choses simplement, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. Et ceci se trouve pratiquement dans toutes les sociétés traditionnelles. Et une des meilleures illustrations de cela, c'est le Moyen-Âge, c'est la chrétienté. Il y a dans cet ordre naturel une logique profonde, dès lors bien sûr que l'on met la première règle pour analyser droitement toute société, c'est le fait qu'il y a un Dieu au départ. Dès lors qu'on admet qu'il y a un Dieu, et bien évidemment la première action sociale sage, c'est d'abord de se concilier l'amitié de ce Dieu. Parce que si on a Dieu contre nous, on pourra faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera jamais. Donc avant même de penser à tenir l'épée, il faut demander à Dieu que celui qui va tenir l'épée ait la victoire. Comme disait Jeanne d'Arc, les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Donc la première chose à faire, dans l'ordre des priorités, c'est d'abord de prier. Et pour cette raison, dans toute société traditionnelle, ceux qui ont ce rôle de la prière ont naturellement le premier rôle. Viennent ensuite ceux qui combattent. Parce que ceux qui combattent vont protéger les autres. Ainsi que le disait Jeanne d'Arc, les hommes d'armes combattront. Il est très rare de voir Dieu sortir l'épée à travers le ciel et venir combattre à la place des hommes. Les hommes doivent combattre. Dieu donne la victoire. Les hommes d'armes combattent et ceci est indispensable pour que les autres puissent travailler. Si l'on inverse les perspectives, c'est-à-dire si on commence par travailler, puis si jamais on est menacé par l'envahisseur, on se dépêche de monter une armée. Il est trop tard. Et cette armée de briques et de brocs, si elle ne s'assure pas auprès de la providence divine, elle est à peu près sûre d'être battue. Donc il y a là un ordre qui est profondément logique, qui est illustré par tout le Moyen-Âge chrétien, et somme toute, quand on en voit les vestiges, ça n'a pas si mal marché. Eh bien, si l'on regarde la société d'aujourd'hui, elle est très exactement l'inverse. Il y a encore ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, mais à ceci près qu'au sommet de la pyramide, il y a ceux qui travaillent. Si vous faites une enquête dans la rue et que vous demandez aux gens que vous rencontrez quel est pour eux le modèle de la réussite sociale, pardonnez-moi monsieur le recteur, pardonnez-moi monsieur l'abbé, mais presque personne ne vous dira c'est d'être prêtre religieuse. Alors qu'il y a quelques décennies, a fortiori quelques siècles, c'était une réponse qui venait souvent. Et même si vous demandez aux gens, être militaire, est-ce que c'est la réussite sociale, vous aurez peut-être quelques réponses, on pensera que ça vaut mieux qu'être prêtre, somme toute. Mais là encore, je crois que dans l'esprit des gens, il y aura en premier avoir une bonne situation, en second, éventuellement, s'il aime vraiment la guerre, s'il aime l'uniforme, qu'il se fasse soldat, mais vraiment, s'il a vraiment des problèmes psychologiques, qu'il se fasse prêtre. En gros, ça sera ça pour l'immense majorité de nos concitoyens. Et d'ailleurs, quand vous regardez un certain nombre de choses dans la société, il y a des symboles qui ne trompent pas. Je ne parle même pas des comportements matérialistes, mais regardez par exemple à quel point dans nos cités le spirituel a disparu, dans l'architecture. Il est très frappant de voir les églises qu'on construit aujourd'hui, quand on en construit. Il y a un exemple à quel point dans nos cités, c'est à Grenoble une église qui s'appelle Saint-Luc, qui n'est d'ailleurs pas la plus vilaine des églises modernes qu'on ait construites, il est vrai que c'est difficile d'être la plus vilaine, mais cette église, elle est littéralement construite à l'intérieur d'un bâtiment. C'est très révélateur. C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, l'église dominait la communauté humaine, c'était le plus haut bâtiment. Si possible, on le mettait sur une butte, de manière à ce qu'en arrivant, on ne voit que l'église en premier. Eh bien là, au contraire, on a pris presque un malin plaisir à faire l'église dans le bâtiment, de manière à ce que le bâtiment se poursuive au-dessus de l'église. C'est bien la volonté, notamment, de l'Église présente au monde, et donc d'une Église qui se fond finalement dans le monde, et ce qui montre bien qu'elle n'occupe plus la première place. Je ne parle pas, et je serai mal placé pour le faire ici, du vêtement religieux qui a disparu, de l'espace, du rite religieux qui ont disparu. Grâce à Dieu, il y a quelques bons prêtres pour les conserver. Disparition aussi, d'ailleurs, du discours spirituel. C'est très frappant. J'évoquais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est dramatique, j'évoquais les familles dans lesquelles il y a trois générations de chômeurs, le grand-père, le père, le fils. C'est normal qu'un laïc qui s'intéresse à l'économie en parle. C'est peut-être moins normal qu'une réflexion comme ça soit faite par le président de la conférence épiscopale. À peine nommé, un journaliste lui dit « Monseigneur, est-ce que vous avez des motifs d'espérer? Évidemment, il y avait plein de motifs d'espérer. Et après, il dit, est-ce que vous avez des choses qui vous rendent un peu triste? Oui, répond-il, quand je vois des familles où il y a le père, le fils et le petit-fils qui sont chômeurs, il y a 3 générations de chômeurs. C'est vrai que c'est triste, mais je ne pense pas que ce soit là le discours normal d'un prêtre. Enfin, je pense que personne parmi vous ne considère que c'est là le discours normal d'un prêtre, parce qu'il n'a rien de spécifiquement religieux. Et le fait que cet évêque, qui est peut-être un homme de bonne volonté par ailleurs, ait dit cela, ça montre bien l'éradication du spirituel dans notre société. Le spirituel a totalement disparu. Eh bien, parce que si l'on a la foi, on sait que quand on cherche le royaume de Dieu, on a tout le reste par surcroît. On sait même, depuis le psalmiste, que si Dieu ne construit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Et donc, si l'on restaure l'ordre naturel, si l'on commence par rendre le culte à celui à qui on doit rendre le culte, c'est-à-dire à Dieu, et non pas au veau d'or, on a beaucoup plus de chances d'avoir l'aisance matérielle. Et somme toute, cette logique toute matérialiste de l'économisme ne conduit pas, l'expérience est faite, à une bonne économie, bien au contraire. Le deuxième volet de la crise, c'est l'aspect politique. Alors là, il y aurait évidemment de quoi occuper... Il y aurait de quoi occuper toute une soirée. Je m'en tiendrai à quelques aspects qui me paraissent particulièrement marquants et souvent peu évoqués. Le premier aspect dont on ne parle, à ma connaissance, pratiquement jamais, c'est la perte de légitimité. Il n'y a pas de pouvoir durable, il n'y a pas de pouvoir efficace s'il n'y a pas de pouvoir légitime. Et si l'on recherche les causes de la perte de légitimité des gouvernants actuels, la première raison, je crois, que l'on trouve, c'est leur perte de représentativité. Et là, on touche du doigt encore la question démocratique, parce que le propre, justement, de la démocratie, c'est de mettre en place un régime représentatif. Puisque le pouvoir provient du peuple, il faut que ceux qui sont au pouvoir représentent le peuple. Eh bien, qu'en est-il? Quand on regarde les résultats des élections, quand on regarde ceux qui sont au pouvoir et que l'on compare ceux qui sont au pouvoir avec les résultats des élections, il y a pour le moins des distorsions importantes. La représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée du même nom, aujourd'hui, 6 millions d'électeurs, et sans doute plus, mais enfin à l'époque du vote, 6 millions d'électeurs n'y étaient pas représentés. C'est-à-dire que pratiquement le quart du corps électoral, je ne dis pas ça pour viser tel ou tel parti en particulier, mais pour parler de manière très générale de la représentativité, un Français sur 4 n'est pas à l'Assemblée nationale. Et quant à la représentation telle qu'elle existe à l'Assemblée nationale, elle ne correspond pas du tout à la réalité. Le RPR, l'UDF ont 80% des sièges. On ne peut pas dire qu'ils ont 80% d'opinion publique pour eux. On a dit tout à l'heure, la popularité, si on peut appeler ça la popularité du Premier ministre, c'est 20%. Donc ils ont 4 fois plus de députés qu'ils ne représentent de Français. Il y a une distorsion énorme. Je ne parle pas du Parti communiste qui, avec la moitié des voix du Front national, a un groupe parlementaire de 25 députés, alors que le Front national n'en a aucun. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas un fanatique, vous l'avez peut-être compris, du système démocratique, mais il me semble tout de même qu'il y a là une contradiction effarante. Je veux dire que celui qui a un tout petit peu de conscience démocratique, ça devrait l'empêcher de dormir, ça. Je veux dire que c'est quand même pas normal que le peuple soit si peu représenté à l'Assemblée, que cette Assemblée ne représente pas le peuple. Ça devrait quand même le gêner. Autre exemple, peut-être à mon avis encore plus net, c'est, rappelez-vous, l'adoption par référendum du traité de Maastricht. 51-49. Il s'agissait tout de même d'une chose importante. Mais quand on songe que tous les grands partis, mis à part quelques dissidents, que les plus importants, RPR, UDF, Parti Socialiste, se sont mobilisés pour Maastricht, que tout ce qu'on appelle les autorités morales, que tous les médias ont pris position en faveur de l'adoption du traité de Maastricht, et de n'avoir que ce résultat. N'est-ce pas finalement la meilleure illustration de ce que Maurras appelait le divorce entre le pays légal et le pays réel? Les Français ne pensent pas, comme leurs médias en ont la quantité d'exemples, l'élection de Gardanne récemment où on a vu M. Kouchner, qui est la coqueluche des médias, qu'on nous présente un peu comme la conscience des Français, faire je crois 13% des voix. On avait vu un exemple comparable avec Simone Veil, qui s'était présentée une fois sous sa bannière aux élections européennes. Vous savez, Simone Veil qui représente 60% d'indice de sympathie, ou soit 80% les bonjours, et qui a fait je crois 8% aux élections européennes. Donc on voit bien qu'il y a un divorce complet entre l'opinion publique et ceux qui sont censés parler au nom de l'opinion publique. Et d'ailleurs, lorsque l'opinion publique ne dit pas ce qu'on veut qu'elle dise, et là encore on l'a vu pour Maastricht, pas en France, mais au Danemark, les Danois ayant répondu par la négative à l'adoption du traité, on les a serinés pendant un an et on a refait l'élection. On a refait voter une deuxième fois. Alors qu'il est bien évident que s'ils avaient répondu oui la première, jamais on aurait dit oui. Peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs. On va bien leur réexpliquer, puis on va leur demander de revoter. Ça ne marche jamais dans ce sens-là. C'est comme, on l'a vu en France à l'époque du directoire, lorsque les Français n'ont pas voté comme on attendait, parce qu'ils avaient élu une majorité de gens qui étaient plutôt des sympathisants de la cause monarchiste, qu'à cela ne tienne, on a annulé les élections. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on se proclame démocrate, on a parfaitement le droit de ne pas l'être. L'essentiel, c'est d'être pratiquant. C'est d'être croyant et non pas pratiquant. J'aurais même pu ajouter, si j'avais voulu être un peu plus sordide, qu'on pourrait évoquer les moyens par lesquels on obtient ces voix. Monsieur Mitterrand qui révèle la maladie dont il est atteint juste quelques jours avant Maastricht. Les mauvaises langues disent qu'il a pensé que ça lui vaudrait un peu plus de sympathie et peut-être que ça permettrait à son référendum de passer. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il n'y aurait pas eu cette sympathie, ce surcroît de sympathie qui est bien naturel pour un homme atteint par une grave affection. Peut-être que ce référendum ne serait pas passé. Donc finalement, on voit que toutes ces choses-là tiennent à peu de choses. Je n'aurais même pas la cruauté d'évoquer les moyens utilisés par l'actuel président de la République pour être élu. Là, je ne le prendrai pas selon bonnet. Je laisserai la parole à Simone Veil, que je n'ai jamais grand plaisir à écouter, mais que certaines de mes fonctions m'obligent à le faire. Simone Veil qui passait sur une grande émission Europe numéro 1 hier soir et qui dit le problème de Jacques Chirac, c'est pas tellement qu'il n'ait pas fait ce qu'il avait dit, c'est qu'il n'a même pas cherché à le faire. Parce qu'au moins les socialistes, ils n'ont pas fait, mais quand même pendant 2 ans, ils ont essayé et jusqu'au moment ils ont vu que ça ne marchait pas du tout. Ils ont dit ben, ça ne marche pas, on va faire autre chose. Mais lui, à peine arrivé, il a fait le contraire. Et vraiment, on avait l'impression qu'il avait pris le négatif et qu'il s'était trompé, qu'il était en train d'appliquer le négatif. Et Simone Veil disant, notamment pour l'assurance maladie, ceux qui ont un tout petit peu de mémoire, je sais que les Français ont la mémoire courte, mais ceux qui ont un tout petit peu de mémoire parmi nous se rappellent que Jacques Chirac proclamait que le problème de l'assurance maladie, c'était pas le problème des prescriptions médicales, par exemple. Et une des premières réformes qu'il fait, justement, c'est d'enrégimenter, d'encadrer les prescriptions médicales. Un dernier point qui explique cette perte de représentativité, c'est que les Français n'ont pas le sentiment que les hommes, non seulement les hommes politiques, ne sont pas de leur bord politique, ne correspondent pas à leur étiquette politique, si l'on peut dire, mais même, ils n'ont pas du tout l'impression qu'ils font ce qu'ils voudraient. Et en plus, les hommes politiques le disent de manière très cynique, ils ne cherchent pas à faire ce que veulent les Français sur un certain nombre de points, sans parler de l'immigration. La question de la peine de mort. Là, s'il y a bien un domaine où on sait, je vous dis tout de suite, je ne suis pas vraiment, sincèrement, je ne suis pas un fanatique de la peine de mort. Je pense qu'elle est nécessaire, qu'elle est louable et salutaire, comme disait saint Thomas, mais c'est un châtiment qui me semble quasiment insupportable. Mais je crois qu'il est socialement nécessaire. Mais ce qui est certain, c'est que les Français le veulent. Parfois, c'est possible pour des motivations qui sont peut-être un peu viles, sentiment de vengeance, peut-être parfois un peu méprisable. Je ne dis pas que toute vengeance est nécessairement méprisable, mais là, peut-être que c'est parfois un peu méprisable. Mais enfin, c'est un fait, si l'on est démocrate, le peuple le veut. Donc si l'on est démocrate, il faut le faire. Je veux dire que même si un homme comme M. Jacques Chirac, qui est un homme, vous le savez, très sentimental et gêné par la peine de mort, eh bien, dès lors que les Français le veulent, il devrait avoir à cœur de faire la volonté des Français. Après tout, c'est cela la démocratie. Eh bien, on voit bien qu'on est dans une crise du système démocratique, puisqu'on ne le fait pas. Et d'ailleurs, de plus en plus de gens s'en rendent compte, même le ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il disait l'autre jour, à l'occasion de la parution d'un ouvrage, que la France n'est plus en démocratie. Et il disait à juste titre que nous sommes dans une oligarchie, et non pas une aristocratie. Or, on sait que l'oligarchie, c'est une dégénérescence de l'aristocratie. L'aristocratie, c'est le régime où les meilleurs commandent. L'oligarchie, c'est le régime où quelques-uns commandent, par hypothèse, pas les meilleurs. Nous sommes dans une oligarchie, c'est-à-dire qu'une poignée commande au nom des autres, au nom du peuple, mais ça n'est pas le peuple lui-même. Un autre grand volet sur lequel je ne m'arrêterai pas, qui explique la perte de légitimité, je ne m'arrêterai pas parce qu'il est trop évident, c'est la perte de considération. Un sondage avait été fait voici 2 ou 3 ans pour demander aux Français quelles étaient les professions qui, à leur avis, étaient les plus honorables. Alors, je ne me rappelle pas exactement quelles étaient les plus honorables. Je crois que c'était les médecins, les infirmières, peut-être les enseignants. Mais je me souviens que les deux dernières étaient respectivement hommes politiques et prostituées. En l'occurrence, les prostituées ne nous ont pas précédés. Elles nous suivaient. Mais c'est tout de même assez frappant de voir le peu de considération que les Français ont pour leurs hommes politiques, alors que, par hypothèse, c'est une activité qui est noble. Le pape Pie XII disait que c'était une des formes, l'action sociale, l'action politique était une des formes les plus élevées de la charité. Eh bien, tout ceci démontre une chose, c'est, je crois, la crise profonde de la démocratie à l'heure actuelle. Et un des symptômes, d'ailleurs, de cela, c'est la corruption généralisée. Mais je crois que la raison fondamentale, c'est que le divorce entre les élus et les électeurs étant de plus en plus important, il fallait que les élus utilisent des moyens gigantesques pour convaincre leurs électeurs. Il fallait utiliser une débauche de moyens, d'affiches, de tracts, leur donner des gadgets, etc. Et d'ailleurs, on voit au passage l'aveuglement des électeurs, c'est qu'ils n'avaient pas réalisé que tout ce qu'on leur donnait, c'était payé avec l'argent qu'on leur avait volé. Et en particulier, j'ai eu ce sentiment très fort étant en Grèce au moment des dernières élections législatives, où il y avait une campagne électorale du type de celle qu'on connaissait en France voici une dizaine d'années, et tous ces bons Grecs qui étaient là écarquillant les yeux, sans se rendre compte que le PASOK, pour ne pas le nommer, le parti qui était au pouvoir, qui était à tous les coins de rue, vous faisiez 100 mètres, vous tombiez sur une petite baraque avec des gens du PASOK qui vous passaient de la musique. Le PASOK, c'est le Parti Socialiste Grec, hein, je le signale, qui vous passait de la musique, qui vous donnait des brochures, etc. Et tous ces gens-là, comme des gogos, prenaient les brochures luxueuses qu'on leur donnait, écoutaient les gens qui leur parlaient, sans aller voter pour eux, sans réaliser que l'argent qui avait été dépensé par le PASOK, c'était très certainement de l'argent qui était détourné, c'était très certainement des fonds public qu'on avait détourné de leur destination initiale. Il y a donc là, et c'est l'aspect à mon avis le plus important de la corruption, un viol très profond de la démocratie. Parce que la limite qu'un homme politique soit malhonnête, on nous apprend aujourd'hui que Mazarin s'est rempli les poches et peut-être même Richelieu aussi. Personne ne contestera que Richelieu a été un des plus grands premiers ministres que la France ait connu. Donc s'ils se servent, mais qu'ils nous servent bien, à la limite, je ne dis pas qu'il faut leur pardonner, mais ce n'est peut-être pas le plus grave. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que ces gens-là détournent de l'argent parce qu'ils ont totalement échoué et que le seul moyen pour eux de se maintenir au pouvoir, c'est de donner l'illusion qu'ils font le bien. L'autre volet de la crise politique, celui-ci est plus connu, c'est la perte d'identité. Ce que je voudrais dire ici, c'est des choses qu'on ne dit pas toujours. Il y a des choses qu'on connaît, mais des choses sur lesquelles, à mon avis, on n'insiste pas assez. D'abord, une remarque d'évidence, c'est que si l'on veut que la France reste la France, il faut qu'il y ait en France des Français. Et le seul moyen d'avoir des Français, c'est que les Français se reproduisent. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, comme dit un proverbe russe, je cite de mémoire, un moineau qui naît dans une écurie n'est pas un cheval. Donc, si on veut que la France soit peuplée de Français, c'est-à-dire de gens qui épousent vraiment la culture française, alors marginalement, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui pourront venir d'ailleurs, qui pourront s'intégrer, qui pourront être Français à 100%, ça personne, je crois, parmi nous ne le conteste, mais en règle générale, on est plus sûr d'avoir des gens de culture française s'ils sont issus de parents français. Qu'est-ce qui caractérise notre pays actuellement de ce point de vue? C'est évidemment la dénatalité. Nous sommes dans un pays qui ne reproduit plus ses générations. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que cette crise de la natalité, plus généralement cette crise de la démographie, elle apparaît à peu près au milieu des années 60. Et très curieux de voir, très intéressant de voir, la courbe de la fécondité des femmes françaises. C'est un indicateur qui est utile à utiliser, parce qu'il est utile parce qu'il est assez parlant. C'est le nombre d'enfants que, en moyenne, les femmes en âge d'avoir des enfants ont, à un moment donné. Eh bien, au lendemain de la guerre, on est à 3,5 enfants par femme, on va descendre un peu, et on va remonter après à 3 enfants par femme en 1964. C'est-à-dire une démographie qui est tout à fait satisfaisante, on peut en avoir plus, mais déjà 3 enfants par femme, c'est très largement suffisant pour les équilibres démographiques, pour notamment maintenir une population jeune, et donc par hypothèse, dynamique. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une année précise où la courbe s'infléchit vers le bas et elle ne va cesser de descendre, c'est l'année 1964. Il semble que dans cette décennie 1960, il y a eu le début d'une crise très profonde. C'est d'ailleurs l'époque du Concile Vatican II, c'est donc une crise qui n'est pas localisée en France. C'est quelques années plus tard, mai 68, on voit qu'il y a là véritablement quelque chose de très profond qui se passe. Et d'ailleurs, tout l'intérêt de la démographie, c'est de permettre de mesurer en termes arithmétiques les comportements. Parce que quand vous interrogez les gens, ils vous racontent ce qu'ils veulent. Mais quand vous comptez les enfants qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, là, ils ne peuvent pas raconter l'histoire. Ce qui est d'ailleurs très frappant, j'ouvre ici une parenthèse, c'est que quand on interroge les gens en 1964, on leur demande « Combien d'enfants souhaitez-vous ? » Eh bien, les couples répondent, les ménages répondent « 3 enfants ». En gros, c'est 3 enfants, la moyenne, qui répondent. Eh bien, combien ont-ils d'enfants ? 3 enfants. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près les enfants qu'ils veulent. Alors, c'est sûr, il y en a qui en voudraient 6 qui n'en ont pas, il y en a qui n'en voudraient pas qui en ont 3, mais globalement, dans la moyenne, la France a à peu près les enfants qu'elle veut. Quand on demande aujourd'hui aux gens combien ils veulent d'enfants, ils en veulent entre 2 et 2,5. Il ne s'agit pas qu'ils ne veulent pas des moitiés d'enfants, c'est des moyennes, bien entendu. Entre 2 et 2,5. Qu'est-ce qu'ils ont ? Entre 1,5 et 2. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un écart entre ce qui est souhaité et ce qui est réalisé. Ce qui montre bien au passage que ce que déclarent les gens ne correspond pas à la réalité. Ce sont les chiffres, en l'occurrence, qu'il faut regarder. 1964, c'est aussi une autre courbe qui s'infléchit, c'est la courbe des divorces. On voit s'accroître aussi à la même époque les divorces. Il y a donc là une véritable crise qui commence. Cette crise d'où vient-elle ? Sans doute une évolution des mentalités. Vraisemblablement, c'est un mouvement très profond qu'on trouve dans notre peuple. Ceci est un fait. Mais ce qui est grave, c'est l'attitude face à cette évolution de ceux qui font l'opinion et de ceux qui ont la responsabilité du pays. Ceux qui font l'opinion vont accompagner et peut-être même provoquer ce mouvement en valorisant une certaine image de la femme, une certaine image de la famille, qui est évidemment aux antipodes de ce dont le pays a besoin, c'est-à-dire d'une meilleure démographie. Je pensais récemment à ceci, c'est que le Moyen-Âge avait idéalisé la Vierge Mère, notre temps déprécie la Vierge et la Mère. C'est tout de même assez fascinant de constater cela. C'est que pour une fille, elle, aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est pratiquement honteux d'être vierge à partir de 15-16 ans. Et avoir des enfants, c'est considéré presque comme une maladie. D'ailleurs, on dit de plus en plus, je suis tombé, enfin les femmes disent, je suis tombé enceinte, comme si c'était une maladie. Et d'ailleurs, le fait qu'on puisse se faire avorter et faire rembourser l'avortement montre bien que c'est considéré comme une intervention chirurgicale. On se fait enlever un kyste, on se fait enlever un enfant, on se fait arracher une dent. Tout ceci, aujourd'hui, est un peu la même chose. Mais la question que je pose, pardonnez-moi d'être trivial, mais je crois qu'il importe de l'être dans ces réalités pour en montrer la gravité. Si l'on va au fond des choses, il y a un autre fait qui est tout de même assez fascinant. C'est qu'au moment où il y a une politique délibérément organisée pour assassiner la natalité française, il y a une politique qui est délibérément organisée d'immigration. Il y a deux explications possibles. Il y en a une qui est moins méchante que l'autre, mais comme souvent en politique, c'est la plus méchante qui est sans doute vraie. Celle qui est moins méchante, qui est déjà assez méchante, c'est de dire que la conception économiste que je disais tout à l'heure, la conception matérialiste, explique finalement cela. Quand on a besoin d'oranges, on fait venir des oranges. Quand on a besoin de voitures, on importe des voitures. S'il manque des travailleurs sur les chaînes, on fait venir des travailleurs. C'est la conception économiste. Mais je me demande même s'il n'y avait pas un dessein encore pire que cela, s'il n'y avait pas une vie encore plus pernicieuse, s'il n'y avait pas le désir d'extirper véritablement l'identité française, si on n'a pas commencé, si certains n'ont pas voulu dans un premier temps affaiblir la démographie française pour ouvrir la voie à l'immigration étrangère. Je pense que ceci a été délibéré. Parce que ceux qui nous gouvernent le démontrent jour après jour, ce sont des cosmopolites. C'est d'ailleurs leur droit d'être cosmopolites, et c'est notre droit à nous d'en démontrer les dangers. Dans leur esprit, il faut absolument abolir les nations. Parce que dans leur esprit, les nations sont la cause des guerres. Et donc, il faut créer finalement un homme qui sera ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge, et même, dans l'idéal, ni homme ni femme. Finalement, il y a un chanteur qui représente parfaitement cela, son nom m'échappe à l'instant, mais vous voyez de qui je veux, même Michael Jackson, qui n'est plus ni blanc ni noir, c'est pas trop si c'est un garçon ou une fille, il semble que c'est un garçon puisqu'il vient d'avoir un enfant, à ce qu'on dit. Mais je crois qu'il incarne finalement assez bien cette humanité qu'on voudrait avoir pour demain. Et je vous montrerai tout à l'heure, cela peut vous faire sourire, mais je vous montrerai tout à l'heure que ça correspond à quelque chose de très profond dans l'idéologie démocratique. Le dernier point qu'on pourrait évoquer dans cette perte d'identité, c'est cette volonté non seulement de créer un homme qui soit aussi peu différencié que possible, mais aussi de faire disparaître la nation française. Et c'est le traité de Maastricht auquel je faisais allusion tout à l'heure. Qu'il faille une coopération entre les États européens, je crois que tout le monde l'accepte. Les nations européennes sont des nations sœurs, et nous devons regarder rétrospectivement les guerres franco-allemandes comme des guerres fraternelles. Ce sont des frères, au moins des cousins germains, qui se sont entre-déchirés, et c'est vrai que tout vaut mieux que cela. Mais est-il nécessaire, pour faire disparaître ces inimitiés, de créer ces espèces de dinosaures que sont ces grands empires qu'on veut reconstituer aujourd'hui? Il semble bien, au contraire, que le mouvement de l'histoire n'aille pas dans ce sens. Lisez le livre d'Alain Minc, Le réveil des nations. Et vous verrez à quel point les tendances actuelles vont au contraire vers l'enracinement, vers la redécouverte des nations. Il y a tellement d'exemples dans les pays de l'Est et dans l'ancienne Yougoslavie qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce point. Mais je crois qu'il y a un symbole dans l'affaire de Maastricht qui est particulièrement grave et particulièrement éclairant, c'est la question de la monnaie. Et permettez-moi ici de faire parler le plus savant, le plus grand des juristes de tous les temps. Je veux parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsqu'on lui tend ce fameux piège, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Et très souvent, on voit dans la réponse du Christ une pirouette, mais le juriste que je suis est obligé de constater que c'est bien plus qu'une pirouette, c'est une réponse profondément véridique et juridique. Donnez-moi une pièce de monnaie. Que voyez-vous? C'est la tête de qui? De César. Et la devise? De César. Rendez à César ce qui est à César. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour un juriste? Vous avez une pièce de monnaie à l'effigie de César. Par conséquent, vous reconnaissez la souveraineté de César. Et si vous reconnaissez la souveraineté de César, vous devez payer l'impôt à celui dont vous reconnaissez la souveraineté, c'est la justice. Donc, quand on nous fait abandonner notre monnaie, on nous fait abandonner notre souveraineté. Et ceci correspond à quelque chose d'extraordinairement profond dans l'homme. On l'a bien vu dans l'histoire médiévale en particulier, une des premières choses que le roi a fait lorsqu'il a voulu reconstituer l'État, c'est imposer sa monnaie, c'est interdire les autres monnaies que la sienne. Et quand je dis que c'est quelque chose est très profond, on en retrouve pratiquement des racines. Pardonnez-moi, je vais être un peu trivial, mais je crois qu'il faut l'être pour se faire bien comprendre ici. On en retrouve des racines, y compris dans le règne animal. De la même façon que l'animal marque son territoire de son odeur, et parfois avec des moyens vraiment triviaux, eh bien, les États marquent leur territoire par ces pièces de monnaie, par ces billets de banque, parce que partout où il y a ces billets de banque, c'est la preuve de leur autorité. Et la question qui se pose ici, elle est la suivante. Est-ce que le peuple français a le droit de renoncer à la souveraineté française? Et a fortiori 51%. Déjà le peuple tout entier, on peut se poser la question, mais a fortiori une petite majorité du peuple. Car on confond souvent deux réalités très différentes, on confond le peuple et la nation. Mais ce sont, je le répète, des réalités différentes. Le peuple, c'est une réalité biologique. Ce sont les citoyens français à un moment donné. La nation est une réalité intemporelle. La nation, ce sont ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront. On n'a pas le droit de disposer de la nation comme cela. Or, disposer de la souveraineté française, c'était disposer de la nation française, et la France n'avait pas le droit de le faire. On voit donc qu'il y a une politique délibérée, je crois, de faire disparaître l'identité française. Et précisément parce qu'il y a des résistances à cela, et c'est le troisième volet de la crise politique actuelle, et actuellement je crois le plus grave, il y a une attaque sans précédent des libertés. Et encore c'est paradoxal, car enfin le grand mot de la révolution, c'est la liberté. À la limite, on serait dans une dictature, on aurait à notre tête un Pinochet, ou un Pétain, ou que sais-je encore. Dire que la liberté est brimée, ça n'aurait rien de scandaleux. On peut ne pas être d'accord avec telle ou telle politique, mais il n'y aurait rien de contradictoire. Ce qui est contradictoire, c'est qu'on est dans un régime dont le fondement proclamé est la liberté, et un régime qui nie de plus en plus les libertés. Ça n'est pas nouveau. On sait que au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle déjà, il y a eu un anticléricalisme viscéral et très, très grave, et qu'au nom de la liberté, on a par exemple expulsé les chartreux, dissous les jésuites, etc. Donc c'est vrai que la liberté, que la République, en certaines circonstances, ni la liberté. Mais quand nie-t-elle la liberté? Quand elle est menacée? Et le fait que les libertés aujourd'hui soient niées, je vais en prendre des exemples, est la preuve d'une crise profonde de régime, d'autant qu'on arrive à des excès que je crois on n'a jamais connus. Car c'est vrai qu'il y a eu l'anticléricalisme, fin 19e, début 20e, mais je crois qu'on a toujours conservé, jusqu'à ces dernières années, une grande liberté d'expression qui, année après année, disparaît. Au nom de quoi disparaît-elle ? Au nom de la lutte contre un prétendu racisme. Racisme qui est devenu aujourd'hui le seul mal. Dans une société, d'ailleurs, qui s'accorde à reconnaître qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est permis, mais le mal ressurgit brusquement quand il s'agit du racisme. Là, c'est le mal. Et là, une question se pose. Est-ce que le racisme est une idéologie dangereuse? À cette question, je réponds peut-être. Mais j'ajoute immédiatement, il y a d'autres idéologies qui ont fait la preuve de leur nocivité. Et par exemple, le communisme, historiquement, apparaît comme au moins aussi dangereux que le racisme. Si on fait un bilan purement chiffré des morts de l'un et de l'autre, en admettant qu'Hitler ait la responsabilité de tous les morts de la guerre de 40, et en admettant que les causes de ces morts soient exclusivement le racisme, on est encore bien loin des morts du communisme. Donc, d'un point de vue purement arithmétique, il y a des idéologies qui sont plus dangereuses. Mais même des idéologies aussi gentillettes apparemment que le libéralisme. Rappelez-vous la phrase de Madame Roland au pied de l'échafaud, « Liberté, on allait la guillotiner, liberté que de crimes on commet en ton nom. » La liberté proclamée au début de la Révolution a eu pour premier effet l'action quotidienne du docteur, enfin du couteau du docteur Guillotin. Voilà le résultat tangible de ce libéralisme. Et puis après, ça a été l'extermination de toute une catégorie de Français, je veux parler des plus pauvres, des misérables, de ceux qui travaillaient dans des conditions désastreuses, qui mouraient à 40 ans parce qu'ils avaient passé toute leur vie au fond des mines, ou parce qu'ils avaient travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, ou parce que, malheureux comme des pierres, ils s'étaient réfugiés dans l'alcool. Mais qui est responsable de ça? C'est bien le libéralisme. Donc si on commence à dire « telle idéologie est dangereuse, interdisons-la », eh bien, soit, mais toutes ces idéologies. Pourquoi réserver cela à une seule idéologie en particulier? Je vous dis tout de suite que je ne répondrai pas à cette question, précisément pour la raison que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il n'y a plus de liberté dans ce pays. Et donc, le peu de liberté que j'ai me permet de dire ce que j'ai dit et de pas d'en dire davantage. Pourquoi donc cette seule idéologie est-elle condamnée? La question restera ce soir sans réponse de ma part. Si ce n'est pour dire qu'en fait, ce que l'on a étiqueté racisme, est-ce que c'est véritablement du racisme? Ce que l'on condamne sous l'appellation racisme, c'est peut-être parfois du racisme. Mais dans l'immense majorité des cas, il s'agit de la réaction, j'allais dire salutaire, d'un peuple qui se bat pour conserver sa culture et son identité. C'est un réflexe profondément estimable. Et il est tout de même paradoxal que le législateur, le juge, vienne réprimer ce réflexe. Et le réprimer avec une sévérité extraordinaire. Je ne sais pas si les uns et les autres vous en êtes conscients, mais il y a tout un appareil juridique délirant. Je veux dire délirant dans un système démocratique. Si on était en URSS, je comprendrais ce système. Mais dans la logique démocratique, il est, je le répète, délirant. C'est d'abord la loi Pleven, en 1970, qui érige une spécificité de l'injure et de la diffamation, l'injure raciale et la diffamation raciale. Et ceci, évidemment, c'est en place, c'est un appareil juridique qui est en place depuis 25 ans, qui donc est rentré dans les mœurs. Mais sur quel fondement repose-t-il? Pourquoi injurier quelqu'un sur la base de sa race serait plus grave que de l'injurier sur la base de ses parents, en évoquant sa profession, ou, je veux dire, je vais être clair, pourquoi serait-il plus grave? Je ne reprends pas les insultes à mon compte, mais je donne un type d'exemple. Pourquoi serait-il plus grave de dire « sale nègre » que de dire « sale flic » que de dire « pardonnez-moi, nique ta mère », etc. il faudrait tout de même qu'on nous explique quel est le critère qu'on est allé chercher pour expliquer la gravité spécifique de ces infractions et pourquoi il fallait les réprimer avec un appareil spécifique. Mais ceci n'était encore que le début. 20 ans plus tard, la loi Guesso. La loi Guesso, ça c'est vraiment le sommet de l'appareil répressif et de l'absurdité. Parce que d'abord, c'est une loi liberticide qui est présentée par un député communiste. Je veux dire, le seul fait déjà que ce soit un député communiste qui proposait ça, les gens auraient dû voter contre. A priori, s'ils avaient un tant soit peu de conscience politique, quand un député communiste dépose une loi et de surcroît au nom de la vérité, alors là, ils auraient dû quitter l'hémicycle immédiatement en leur disant, comme à l'apôtre Paul sur l'aéroport, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Et quelle vérité était protégée? C'était la vérité des crimes contre l'humanité. Quand on sait que les crimes contre l'humanité, en l'occurrence, se résument à un seul crime, c'est le génocide, parce que comme chacun sait, il n'y en a eu qu'un seul, du moins à l'époque, c'est ainsi qu'on le disait, et que la définition de ce crime contre l'humanité a été donnée par le tribunal de Nuremberg, à l'intérieur duquel ont trouvé les amis de M. Staline, donc au moins un certain nombre de juges dont l'honnêteté était sujette à caution, je veux dire, bref, tout ceci aurait dû faire obstacle immédiatement à l'adoption de cette loi. Elle n'en est pas moins passée, alors même qu'il y avait eu mobilisation d'un certain nombre de grands journaux, et même le Nouvel Observateur avait dénoncé cette loi. Même Madame Simone Veil, la conscience de la République, avait dénoncé cette loi. Donc, il n'y avait vraiment aucune raison qu'elle passe. Elle est passée. Et c'est ainsi que des gens ont été condamnés très sévèrement, notamment mon collègue le professeur Forisson, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois et qui m'a fait l'effet d'être un homme extrêmement sérieux dans ce qu'il affirmait. Je ne reprends pas à son compte ce qu'il dit, parce qu'autrement je risquerais la même peine que lui. Donc je m'empresse de dire, je ne reprends pas ça à mon compte. Mais l'homme m'est apparu comme un homme honnête et un chercheur sérieux. Pour autant que je puisse en juger, je ne suis pas qualifié sur ce point précis, mais il est tout sauf un mythomane ou un rigolo quand on le rencontre. Je ne l'ai rencontré qu'une fois, c'est l'impression qu'il m'a fait. Il a été condamné, ça lui a coûté entre 1 million et 1 500 000 francs, entre les dommages d'intérêt, les frais de justice, etc., qu'il a fallu payer. Imaginez qu'un homme de gauche qui aurait nié la virginité de la Vierge, bon, d'abord il n'aurait pas été condamné, même il aurait été condamné, il aurait nié l'existence de Jeanne d'Arc, il aurait dit je ne sais quoi d'insultant sur notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord il n'aurait pas été condamné, et s'il avait été condamné ne serait-ce qu'à 1 franc de dommages d'intérêt, vous auriez eu des centaines de milliers de gens dans les rues. Ceci est passé comme une lettre à la poste. Personne n'en parle. Et c'est pourquoi je veux en parler ce soir devant vous, parce que ça me paraît une chose extrêmement grave. Et l'épilogue de cette affaire, au moins provisoirement, c'est que lorsqu'avait été proposée cette fameuse loi Guesso, un obscur député RPR, M. Jacques Toubon, était intervenu pour dire que c'était une loi scandaleuse et il l'avait critiquée. Le même Jacques Toubon, devenu garde des Sceaux, s'est empressé de faire appliquer cette loi de la manière la plus stricte qui soit. Et non seulement il l'a fait appliquer de la manière la plus stricte qui soit, mais voilà le projet de loi qu'il a déposé à l'Assemblée nationale, je l'ai lu et relu, je comptais vous le commenter, je ne pourrais le faire, j'en parlerai si certains le souhaitent, mais c'est proprement pour quelqu'un qui a fait 1 heure de droit pénal, c'est hallucinant. Surtout, je le répète, dans une société démocratique, dans une société qui a choisi comme fondement la liberté. Comme une société dont le texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Déclaration toujours d'actualité. Déclaration citée et recitée par le Conseil constitutionnel proclame le droit à la liberté d'opinion, le droit à la liberté d'expression. Faut-il que la démocratie soit en danger, faut-il que la crise soit profonde pour que l'on assiste à une pareille contradiction. Reste un dernier volet qui n'est pas le moins intéressant, mais que je traiterai rapidement puisque j'ai vu que l'heure avait beaucoup tourné, c'est celui de la crise morale. C'est sans doute l'aspect le plus profond parce que, me semble-t-il, à la vérité, et contrairement à ce que disait Jean-Jacques Rousseau, vous savez que Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme est bon et que la société le corrompt, il semble que tous les problèmes que connaît la société proviennent en fin de compte de l'homme. C'est plutôt l'inverse de ce que dit Rousseau qui est vrai, c'est l'homme qui est mauvais parce qu'il est marqué par le péché originel et dès lors la société se trouve corrompue. Si les hommes étaient bons, bien évidemment la société serait bonne par voie de conséquence. Quelles sont les manifestations de cette crise morale ? J'en ai évoqué un certain nombre, mais ce que l'on peut dire, c'est que tout le monde est concerné. Les élites d'abord, et au premier rang de celles-ci, les hommes politiques. J'ai évoqué tout à l'heure la corruption généralisée. On pourrait parler peut-être plus gravement de la perte du sens de l'État. Et ce qui explique aussi un grand nombre des phénomènes dramatiques que nous observons, c'est la lâcheté de nos hommes politiques. Et là, en tant qu'élu local, je peux l'attester, j'ai rencontré 100 fois, dans ma vie d'élu, qui a maintenant une dizaine d'années, j'ai rencontré 100 fois des gens qui sont venus après mes interventions me dire à quel point ils étaient d'accord avec moi. Jamais l'un d'entre eux n'a voté comme moi. Alors pourquoi ? On pourrait penser qu'il manque de lucidité, ça n'est même pas le cas, puisqu'il nous donne raison dans le particulier. Mais pourquoi une fois qu'ils sont rentrés dans l'hémicycle, votent-ils différemment ? Pourquoi n'ont-ils pas le courage de temps en temps de se lever et de dire, eh ben non, là je ne suis pas d'accord. Je me souviens qu'une fois au conseil régional, je vois au bar deux ou trois personnes d'un groupe de la majorité, et je leur dis, tiens, vous n'êtes pas dans l'hémicycle, on ne peut pas voter ça. Votez quoi ? C'était le budget de la culture de la région. Et ils trouvaient les propositions qui étaient faites tellement scandaleuses qu'ils ne pouvaient pas, disaient-ils, les voter. Eh bien, au lieu de rentrer et de dire publiquement « nous ne votons pas parce que c'est scandaleux », au lieu de se lever, il aurait suffi d'un seul. Et trois auraient été largement suffisants. Eh bien, ils préféraient sortir. Et je crois que ceci est significatif d'une lâcheté assez généralisée. Je ne veux pas dire que dans le camp où je me trouve, il n'y ait que des gens courageux et admirables, mais c'est vrai qu'un peu partout, et vous en faites, je crois, l'expérience dans l'ensemble des secteurs de la vie sociale, il y a aujourd'hui une décadence très profonde des élites. Et voyez-vous, si on se pose la question, au moment des inventaires, vous savez, au moment où, avec la séparation d'Église et de l'État, il fallait faire les inventaires des églises, on a vu un grand nombre de militaires, de magistrats refuser de servir. Des militaires qui brisaient leur épée, des magistrats qui refusaient de prêter la main à cette œuvre sacrilège. Je me pose souvent la question, combien y en aurait-il aujourd'hui ? Y en aurait-il seulement ? J'ai constaté, mais je ne veux pas m'étendre sur des cas personnels, j'ai constaté l'attitude d'un certain nombre de mes collègues à l'université. D'une faculté de droit, des gens qui devraient être là pour défendre la liberté. C'est hallucinant ce que j'ai vu. Donc il y a là, je crois, une crise extrêmement profonde des élites. Et puis il y a une crise générale, parce que j'évoquais tout à l'heure la perte du sens de l'État par les hommes politiques, mais la perte du sens du bien commun se trouve aussi dans toute la population. Il y a aujourd'hui beaucoup de chômeurs, mais chacun connaît des chômeurs qui ne souhaitent pas sortir du chômage, qui font tout pour y rester le plus longtemps possible. J'évoquais tout à l'heure les votes, mais combien y a-t-il de gens qui votent droitement, c'est-à-dire en ne pensant qu'à l'intérêt général, en faisant abstraction de ses intérêts particuliers? C'est ça le sens d'un vote, pour autant que la démocratie soit un régime estimable. On pourrait évoquer, j'en ai déjà parlé, du mépris de la vie qui est devenu généralisé à un point qui est inimaginable. Je pourrais parler de la désespérance de toute une jeunesse, victime de la drogue, se suicidant, victime du sida. Bref, tout ceci montre qu'il y a tout de même quelque chose de très grave qui se passe en ce moment. Et si l'on recherche les causes de cela, on peut y répondre, la cause, c'est la perte de la religion. Je crois que c'est encore plus grave que cela. La cause, à mon avis, c'est qu'une religion s'est substituée à une autre, et cette religion qui s'est substituée à une autre est une religion de mort. Car la démocratie dont je parle depuis le début, ça n'est pas seulement un régime politique, ça n'est pas, et vous le disiez l'autre jour, ça n'est pas essentiellement un régime politique. Et ce ne sont pas des gens aussi peu recommandables que M. le recteur et moi qui le disons, c'est M. Burdeau qui est vraiment une des consciences de la République, professeur de droit constitutionnel, qui est un des professeurs officiels s'il en est. La démocratie est une religion, et c'est une religion, je le montrerai, particulièrement nuisible. D'abord, c'est une religion. Elle l'a été dès l'origine. Et j'ai eu l'occasion de m'en rendre plus particulièrement compte en m'intéressant à un personnage assez fascinant, d'ailleurs, et qui a des côtés sympathiques, mais des côtés aussi assez terrorisants, c'est Robespierre. Quand on regarde la carrière de Robespierre, Robespierre commence sa carrière comme sans doute l'homme le plus convaincu de la Révolution. Mirabeau, qui est sans doute le plus intelligent des révolutionnaires, celui qui a le plus grand sens politique, Mirabeau, voyant Robespierre, qui à l'époque passe pour un garçon un peu simplet d'ailleurs, parce qu'il a des propos un peu extrémistes, Mirabeau dit, il ira loin, il croit tout ce qu'il dit. Et c'est vrai. Robespierre est un homme sincère, c'est ça qui est sympathique chez lui, c'est un incorruptible. Dans ce personnel politique qui est pourri jusqu'à la moelle, à tel point qu'il faudra faire ressortir du Panthéon Mirabeau quand on redécouvrira à quel point il a prévariqué, on parle du Panthéon en ce moment, ce personnel politique qui est très largement pourri, j'ai parlé de Mirabeau, j'aurais pu parler de Danton et de quelques autres, il y en a un au milieu qui incarne une certaine pureté, c'est Robespierre. Pourquoi ? Parce que pour Robespierre, la Révolution, c'est une religion. Et c'est lui qui l'a le mieux compris de tous. Plus tard, d'ailleurs, Michelet aura cette phrase très pénétrante. On a dit beaucoup de mal de Michelet, et c'est vrai qu'il y a des côtés un peu critiquables dans son œuvre, mais c'est peut-être celui qui a le mieux compris la Révolution française. Il a eu les paroles les plus définitives sur elle. Il a dit « La Révolution est une église ». Et il ajoute « Et précisément parce que c'est une église, elle n'a pu supporter aucune autre église ». Et la théorie que j'ai défendue, je m'attendais à choquer beaucoup, que j'ai défendue devant des collègues à Toulouse lors d'un colloque, je m'attendais à les choquer beaucoup, et en fait, ils ont tous été d'accord, donc elle ne doit pas être si hétérodoxe que cela. La théorie que j'ai soutenue, c'est que dans un premier temps, Robespierre est un fidèle de cette Église qu'est la Révolution. Et comme c'est le meilleur des fidèles, eh bien, il en est devenu en quelque sorte le pape. Et puis, étant devenu le pape de la Révolution, il a eu cette idée saugrenue de créer une religion. Et c'est la religion de l'être suprême. Et c'est ça qu'on ne lui a pas pardonné. Parce que créant la religion de l'être suprême, il faut savoir qu'à cette époque, c'est la seule époque de l'histoire de notre pays, on a voté un décret dont l'article premier était « Le peuple français reconnaît solennellement l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme ». C'est pas sous la monarchie qu'on a voté ça, c'est sous la République. Et donc, créant ce culte de l'être suprême, devenant le souverain pontife de cette religion, il allait nécessairement être éliminé par la Révolution. Parce que la Révolution est sa propre Église. Et il n'est pas question de créer une autre Église, même si cette Église est celle de Robespierre, même si elle est celle de l'être suprême. Et c'est, je crois, profondément ce qui explique la crise de l'Église à l'heure actuelle. L'Église en Occident se trouve dans une situation très comparable de celle qui a été la situation des chrétiens d'Orient face à l'islam. Les chrétiens d'Orient se sont trouvés face aux Arabes qui prenaient le pouvoir, mais il ne s'agissait pas d'envahisseurs comme les Francs qui arrivaient sans trop d'idées et qui étaient prêts à s'acculturer dans le milieu où ils arrivaient. L'ambition des Francs, c'était de devenir des Romains. Que ceux qui s'intéressent lisent l'admirable livre de Pirène, Mahomet et Charlemagne. C'est un éblouissement. Ce livre, d'ailleurs, serait sans doute interdit aujourd'hui. Hein, je le dis tout de suite. Enfin, Pirène serait très certainement condamné à une lourde peine. Mais c'est une référence. Je sais que quand j'étais étudiant en histoire, c'était un des deux livres qu'on nous citait comme étant la référence sur cette période-là. Mahomet et Charlemagne. C'est ce qui explique très bien Pirène. C'est que la grande différence entre les Francs et les Arabes, c'est que les Arabes arrivent avec leur religion. Et cette religion, qui est une religion conquérante, une religion à laquelle il croit profondément, va progressivement éradiquer toute la chrétienté. Car on oublie trop que tous ces pays qui sont aujourd'hui des pays musulmans étaient des pays chrétiens. On oublie trop que tous les premiers conciles œcuméniques se tiennent en Turquie, dans l'actuelle Turquie, que quantité de grands saints étaient d'Afrique du Nord. Mais toute cette chrétienté a été éradiquée par l'islam. Eh bien, je crois que ce qu'a fait l'islam au sud de la Méditerranée et à l'est, il est en train de le faire, la révolution est en train de le faire aujourd'hui au nord et à l'ouest, précisément parce que la révolution est une église et qu'elle se comporte vis-à-vis de l'église catholique comme l'islam s'est comporté vis-à-vis de la chrétienté, en traitant, par exemple, les chrétiens comme des citoyens de seconde zone. Par de multiples exemples sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, mais si vous le souhaitez, je vous en parlerai. Alors vous pouvez m'objecter que tout ceci est un peu de l'histoire ancienne, la Révolution, je vous objecterai que c'est au contraire d'une brûlante actualité. Car ceux qui en ont âge, ou même un peu plus, ne me démentiront pas lorsque je dis que l'idéologie des droits de l'homme est de plus en plus présente. Jamais on n'a parlé autant qu'aujourd'hui des droits de l'homme. Jamais on s'est autant référé à ce que Michelet, lui encore, appelait le credo du nouvel âge. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui d'ailleurs est inscrite non pas sur des feuilles de papier, mais véritablement sur la reproduction des tables de la loi. Il est très frappant de voir que ce nouveau décalogue, en quelque sorte, qui est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se présente bien comme un nouveau décalogue. Je le répète, c'est le graphisme des tables de la loi, avec cette différence que dans les tables de la loi, il y a les interdits posés par Dieu, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Alors que dans la déclaration des droits de l'homme, il y a les interdits que l'homme pose. On ne pourra pas te faire ceci, on ne pourra pas te faire cela. C'est très exactement, là encore, le négatif du décalogue. Et c'est une religion qui se substitue à une autre. Et précisément dans la mesure où nous revenons aujourd'hui de plus en plus à cette idéologie des droits de l'homme, je crois que cette remarque est tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit cette déclaration, ce qui est frappant, c'est que c'est une suite de dogmes. Là encore, si vous le souhaitez, j'aurai l'occasion d'en donner des exemples. Mais référez-vous par exemple à l'article 16 sur la séparation des pouvoirs. Il est présenté de la manière la plus dogmatique qui soit, et d'ailleurs la plus fausse qui soit, puisqu'on explique qu'il ne saurait y avoir de constitution s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, alors même que 4 ans plus tard, la Révolution donnera à la France une constitution dans laquelle sera explicitement niée la séparation des pouvoirs. Donc cette révolution se présente toujours aujourd'hui comme d'actualité, cette idéologie est toujours d'actualité, c'est plus que jamais une religion, parce qu'elle se présente avec les deux caractères les plus spécifiques d'une religion, comme la vérité. La démocratie n'est plus un régime parmi d'autres, comme le disaient les anciens, mais c'est la vérité. Et c'est également le salut. C'est le salut parce que seule la démocratie est un bon régime. Que par la démocratie, tout doit s'arranger. Que le seul péché, finalement, qui n'existe plus dans notre société, c'est celui de n'être pas démocrate. Et comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel n'est même pas tellement de pratiquer cette religion. Du moins, faut-il la confesser publiquement. Et d'ailleurs, dans l'histoire pratiquement de toutes les persécutions religieuses, c'est toujours ce qu'ont demandé les persécuteurs. Les persécuteurs savent très bien qu'ils n'ont pas prise sur l'âme des gens. Mais du moins, veulent-ils sauvegarder les apparences? Et ils savent d'ailleurs que lorsque les apparences ont été conquises, par la suite, les âmes suivent. Et c'est ainsi qu'un homme comme Staline a eu droit à toutes les indulgences parce qu'il se proclamait démocrate. Alors que dans le même temps, un homme comme Franco, qui a fait infiniment moins de mal à son peuple, et je dirais même aussi infiniment plus de bien, un homme comme Franco était voué aux gémonies, précisément parce qu'il ne reconnaissait pas cette religion démocratique. De surcroît, cette religion a la prétention à l'universalité. Comme l'islam, comme avant lui le christianisme, c'est la religion qui a vocation à dominer le monde entier. Or, cette religion, et j'en finirai par là, est une religion nuisible. Toutes les religions ne le sont pas. Évidemment, le christianisme, chacun le sait ici, a fait énormément de bien en société. Mais même, je pense à d'autres religions, la religion romaine, par exemple. Elle n'a pas fait que du bien, mais elle a laissé un bilan globalement positif, comme on dit parfois. Suffisamment intéressant d'ailleurs pour que le Christ ait pris la peine de naître dans l'Empire romain et pas dans un autre. Donc cette religion toute païenne, somme toute, elle avait un certain nombre de mérites, et même la religion grecque aussi a été à l'origine d'une grande civilisation, imparfaite certes, mais grande tout de même. La religion démocratique est, elle, me semble-t-il, une religion extrêmement nuisible. Je pense d'ailleurs vous l'avoir assez largement montré en décrivant cette crise que nous traversons. Elle est nuisible fondamentalement parce que c'est une religion sans Dieu et qui lui manque donc l'essentiel. Et qu'à tout prendre, il vaut mieux avoir des faux dieux comme l'Antiquité que pas de Dieu du tout, surtout tant que le vrai Dieu ne s'est pas encore donné la peine de venir nous rendre visite. Là, c'est une religion sans Dieu, ou plus justement, c'est une religion dont le Dieu est l'homme. Et ce qui est encore plus grave, c'est que cet homme qui est divinisé, ça n'est pas le vrai homme. C'est un homme qui est triplement faux, si je puis dire. D'abord parce que c'est un homme abstrait. Il y a une très belle formule de Joseph de Maistre, bien connue. Il dit en substance: dans ma vie, j'ai rencontré des gens de toutes les nationalités, des Français, des Anglais, des Suisses, des Allemands, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais je n'ai jamais rencontré l'homme. avec un grand H. L'homme, cette abstraction, c'est une invention de la religion démocratique, ça n'existe pas. Et je disais tout à l'heure que j'expliquerai quelque chose. J'expliquerai ce désir fanatique du métissage aujourd'hui. Ces mêmes gens qui se battent pour sauvegarder les espèces les plus humbles. On nous a fait voter des crédits pour sauvegarder les chauves-souris. Ces gens-là veulent sauvegarder les chauves-souris, ils vont pleurer sur les bébés phoques, mais ils considèrent que s'il n'y a plus qu'un seul homme, si on est tous pareils, ni blanc, ni noir, ni grand, ni petit, ni blond, ni brun, ce serait un peu l'idéal, mais ce serait une absurdité, la disparition de cette diversité. Il est bien de conserver toutes les espèces, parce que c'est agréable, parce que en voyant un chat noir, on a pris du plaisir à voir un chat blanc, et ainsi de suite. Et ce que je dis pour les chats est pareil pour les hommes. La diversité n'est pas du tout source de haine, bien au contraire. Il n'y a que les homosexuels qui peuvent penser une chose comme ça. Mais les gens normaux savent bien au contraire qu'on est attiré par la différence, puisque les hommes normaux cherchent à s'unir à des femmes, et réciproquement. Donc la diversité n'a rien de condamnable, la recherche de la diversité n'a rien de condamnable, bien au contraire. Ce qui est absurde, c'est cette volonté féroce et totalitaire de ne vouloir plus créer qu'un seul homme identique, parce qu'au fond, le seul homme que l'on connaît, c'est l'homme avec un grand H, homme qui n'existe pas et qui, grâce à Dieu, n'existera jamais. La seconde erreur que l'on fait sur l'homme, je l'évoquais rapidement, c'est l'erreur de la bonté de l'homme. On sait bien que l'homme n'est pas bon, il n'y a que Rousseau pour penser le contraire. Est-il besoin de s'arrêter sur ce point? La troisième erreur, c'est de vouloir un homme libre. Et là encore, on observe concernant la liberté, ce que l'on a observé concernant l'économisme, c'est que le libéralisme ne conduit pas plus à la liberté que l'économisme ne conduit à une bonne économie. Au contraire, le libéralisme, qui repose sur cette idée que l'homme est bon, conduit globalement à la désagrégation sociale, conduit, on l'a vu tout à l'heure, à la négation des vraies libertés de l'homme, et en particulier à peut-être une des libertés les plus profondes qui soient, c'est la liberté de dire la vérité. Et ce qui est extrêmement frappant, je ne prendrai que cet exemple dans le projet de loi de M. Toubon, c'est que M. Toubon, par cette loi, vise à supprimer un des moyens de défense essentiels en matière de diffamation, qui est ce qu'on appelle l'exception veritatis, c'est-à-dire l'exception de vérité. Si je dis, par exemple, M. Carignan est un voleur, eh bien, M. Carignan peut me faire un procès en diffamation. Mais si je dis au tribunal, j'ai dit que c'est un voleur et je le prouve, c'est ce qu'on appelle l'exception veritatis, je produis une exception, c'est-à-dire un moyen juridique qui fait obstacle à l'action de M. Carignan. Eh bien, en matière de diffamation raciale, dorénavant, il sera impossible de faire appel à l'exception veritatis. C'est-à-dire que ce qui est admis dans tous les cas de diffamation, quand vous portez atteinte à la considération de la personne en lui imputant un fait précis, vous êtes un assassin, vous êtes un voleur, vous êtes ceci, vous êtes cela, eh bien, quelle que soit la personne, quelle que soit votre accusation, vous pourrez toujours vous défendre en disant « mais c'est la vérité, on peut dire que j'ai porté atteinte à sa considération, mais on ne peut pas me poursuivre pour l'avoir fait parce que j'ai dit la vérité », eh bien, ce droit sacré à la vérité, voilà qu'on menace de le faire disparaître dans la loi française. Et donc, on voit à travers cet exemple qu'on laisse aujourd'hui aux hommes des libertés qu'ils n'ont pas. On laisse aux hommes le droit de divorcer, on laisse aux femmes le droit de tuer l'enfant qu'elles portent en elles, alors qu'elles devraient être les premiers à le protéger. Mais en revanche, les libertés fondamentales, les libertés essentielles de l'homme, celles-là sont quotidiennement bafouées. Vous m'excuserez d'avoir été si long. Je dirais juste un mot pour terminer. Si je devais résumer tout ce que j'ai dit sur la crise de la démocratie, je crois que c'est une crise qui se caractérise par le mensonge, par le fait que la société est déboussolée et par ce que le pape appelle la culture de mort. On comprendra que pour résoudre cette crise, il n'y a qu'une issue possible, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie.